Quand je pensais à ce que ce livre pourrait m'amener, je me suis dit, tiens, sûrement des belles discussions avec mon éditeur. Parce que c'est lui qui a choisi le texte, donc forcément, on devrait avoir des discussions sur tel ou tel choix, l'intention derrière une phrase, des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être, s'il se rend jusque-là, des beaux échanges avec les lecteurs ou les lectrices. J'ai plus honte de le dire, mais jamais j'ai pensé au libraire. Jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi les gens qui m'ont mis à plus d'une reprise les larmes aux yeux, il y a souvent eu des libraires. Et voilà, je pense que quand j'écrirai le deuxième roman, je penserai un peu plus à eux.
Bienvenue à la librairie Cochot qui met en valeur le travail des libraires. Voici votre animateur, René Cochot.
Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot. Voici un nouvel épisode de la librairie Cochot. Merci de vous intéresser à cette émission et surtout au travail des libraires et des librairies indépendantes. Voici le menu pour cette semaine. Une entrevue avec Sophie de Turche, propriétaire de la librairie L'Alchimiste à Genève en Suisse. Un entretien avec Patrick Nicole concernant son roman « Sélection naturelle » paru chez Le Cartanier. François-Alexandre Bourbeau de la librairie Libère à New Richmond parle de la partie la plus gratifiante de son métier. L'auteur Claude Lemay souligne le travail effectué par les libraires. Nos archives nous font découvrir Anaïs de la librairie Mona à Bordeaux, en France, et la librairie Les Recyclables à Genève, en Suisse. Catherine Leroux des éditions Alto présente le nouveau roman de Dominique Fortier, Chambre noire. Karine Côte-Noire, copropriétaire de la librairie Le Repère à Granby, révèle les livres les plus vendus au cours des derniers mois dans son commerce. David Marchand de la librairie de la Coop de l'Université de Sherbrooke commente une tendance éditoriale actuelle. David Lessard-Gagnon de la librairie Appalaches à Sherbrooke commente la BD Carl de Cyril Bonin, parue aux éditions Sarbacane. Et finalement, Isabelle Dion de la librairie Anénorac parle d'un livre qui passe sous le radar, mais qui gagne pourtant à être lu. Bienvenue à la librairie Cochot.
Le bouquiniste du bord de Seine a un livre de 1816. En feuilles de chou, le bouquiniste du bord de Seine a un trésor daté 1816 en cuir de caribou. Il dort dans une péniche pour mari, des voitures il s'en contrefiche. Il lit, il dort dans une péniche pour mari. Des bouchons, ils s'en contrefichent, et mystiches, acrostiches, ils lit, il lit. Le bouquiniste du bord de Seine a une clochette en porcelaine en forme de hibou. Le bouquiniste du bord de Seine a des longs doigts de porcelaine et une odeur de gros matou. Il dort dans une péniche pour mari, des voitures il s'en contrefiche. Il lit, il dort dans une péniche pour mari, des bouchons il s'en contrefiche, et mystiche, acrostiche. Il lit, il lit. Du bord de Seine, été, hiver, port des mitaines et un monocle en fermou. Le bouquiniste du bord de Seine connaît par cœur 120 poèmes qu'il murmure entre chien et loup, qu'il murmure entre chien et loup, qu'il murmure entre chien et loup.
À la librairie Cochot, on va se déplacer en Suisse, plus précisément à Genève, alors que nous allons nous entretenir avec Sophie de Turche, qui est la propriétaire de la librairie L'Alchimiste. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Sophie, vous êtes libraire depuis 19 ans, mais vous êtes propriétaire de la librairie L'Alchimiste depuis 2024, si je ne m'abuse. Expliquez-moi les circonstances qui vous ont amené à devenir, un, dans un premier temps, libraire, et deux, propriétaire de cette librairie.
Alors, c'est de devenir libraire, c'est un coup du sort, le hasard le plus complet, parce que je finissais mes études en tant que j'avais 25 ans et je devais trouver du travail. Et c'est vraiment le hasard le plus complet parce que j'ai juste déposé mon CV dans la librairie où je travaillais avant et ils cherchaient quelqu'un pour faire des paquets cadeaux. Donc c'était parfait, c'était dans mes cordes. Et puis au final, j'y suis restée 17 ans et j'ai eu pendant 15 ans la gérance de cette librairie. Et puis en 2024, le propriétaire a décidé de fermer. Donc on a tous, toute mon équipe et moi-même, nous avons été licenciés. La librairie a fermé définitivement. Et on a réussi à rebondir et à ouvrir une nouvelle librairie, toujours au même endroit, donc à Genève, indépendante et avec notre équipe.
Bon, fallait avoir quand même un peu d'audace, de courage ou de naïveté, c'est selon, de se lancer dans l'acquisition d'une librairie qui venait de fermer, là.
C'est effectivement un petit peu de tout. Il fallait de l'audace, mais j'avoue que quand le moment s'est trouvé, on a des clients exceptionnels, on a vraiment énormément de chance, nous, là où on est situé. Et c'était un vrai crève-cœur d'arrêter et de devoir rebondir sur une autre activité. C'est le fait de ne pas avoir trop réfléchi et que les choses s'alignent tout ensemble, d'avoir ouvert, parce que sinon, si on avait réfléchi 5 minutes avec la conjoncture actuelle, surtout en France, mais même en Suisse, la condition des libraires et des librairies, on ne se serait pas lancé. Et on a bien fait de ne pas réfléchir, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans, et 2 ans que ça se passe super bien, on est très contents, les clients sont contents, on a de bons retours, on a vraiment beaucoup de chance dans ce climat un petit peu difficile.
Oui, ben parlez-moi donc de ce climat difficile. En fait, c'est un climat que vivent la très grande majorité des librairies indépendantes partout dans le monde, ici au Québec comme en Suisse, là.
Tout à fait. Nous, on est regroupés à Genève dans une association qui s'appelle Le Cercle. Donc, on se rencontre assez régulièrement, le Cercle des librairies et des maisons d'édition genevoises indépendantes. Et c'est vrai que ce qui ressort le plus de mes collègues, c'est que les gens ont beaucoup de peine à se déplacer. C'est vraiment la fréquentation qui pêche en librairie. Alors nous, ce qui nous sauve, c'est qu'on est dans un centre commercial. Alors une librairie indépendante dans un centre commercial, c'est rare. Et puis la nôtre, elle a vraiment un côté vintage, un côté... C'est quelque chose auquel je tenais, avec des vieux meubles, des meubles de famille. Il y a une âme. C'est pas à ça qu'on s'attend dans un centre commercial. Mm-hmm. Mais on a beaucoup de chance d'avoir l'opportunité et d'être nous-mêmes, de travailler comme on aime et avec le visuel qu'on aime. Cette fréquentation, elle est améliorée par le fait que, étant dans un centre commercial, on a quand même du passage des gens qui ne viennent pas forcément pour nous, mais quand ils nous découvrent, du coup, ça s'arrête. Et ça, c'est vraiment chouette. Je dirais que la plus grosse des difficultés, c'est ça, c'est la fréquentation en librairie.
Ouais. Et pour s'assurer d'une certaine fréquentation ou de susciter un intérêt, évidemment, les librairies... ont l'occasion d'inviter des auteurs, des autrices, de tenir des séances de dédicaces, des discussions avec des auteurs et des autrices. Et vous êtes très, très actifs là-dessus.
Oui, alors nous, c'est vrai que là, la saison recommence à partir de samedi. Et je ne crois pas qu'on ait un week-end... On n'a pas souvent des week-ends de libre.
Ben, c'est bon signe, ça.
non, ça se passe bien, ouais, c'est chouette. Mais c'est vrai que ça demande de l'énergie, de l'implication. Pour bien faire les choses, il faut vraiment faire un suivi, une communication... On se développe sur, on a un site internet, on a Instagram, on a Facebook évidemment, mais c'est aujourd'hui, nous ici à Genève, c'est quand même beaucoup plus Instagram qui marche. Facebook, c'est malheureusement dépassé un peu. Mais le travail qu'on fait sur ces réseaux, oui, c'est bien parce que c'est important. Le mieux, ça reste les personnes qui sont vraiment là en boutique et qui passent et qui s'arrêtent et qui sont présentes à l'événement et qui n'ont pas forcément vu ça sur nos réseaux. Malgré tout, il faut faire quelque chose de qualité et propre. Enfin, ça reste important aujourd'hui d'avoir un tout.
Absolument. Sophie de Turche, vous avez évidemment une vision sur la littérature suisse romande particulièrement. J'imagine que vous vous faites un devoir de faire la promotion des auteurs suisses francophones.
Bien sûr, on a tout un rayon consacré justement à la littérature suisse. Alors, on ne va pas se mentir, les 95% de la littérature sont quasi françaises ou des traductions anglaises ou américaines. Mais on a de la très bonne littérature aussi ici en Suisse et c'est important pour nous de la mettre en avant, de recevoir ces auteurs. Il y en a beaucoup qu'on apprécie énormément et c'est important. Et j'avoue que notre clientèle a aussi ce côté un petit peu, c'est de Genève, c'est de chez nous, c'est de Suisse, alors ça les intéresse aussi un peu plus.
Ben oui, absolument. Je poursuis mon entretien avec Sophie de Turche, qui est la propriétaire de la librairie L'Alchimiste, basée à Genève. Parlons un peu de l'équipe, parce que vous n'êtes pas seul pour tenir le fort.
Non, c'est très important d'avoir une équipe. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. On est tous différents, tous complémentaires et tous importants et indispensables. Donc effectivement, dans l'équipe, j'ai Nathalie qui travaillait avec moi dans l'ancienne librairie, qui s'occupe de justement la littérature française, étrangère et suisse, et puis de plein d'autres secteurs, puisqu'on est une librairie généraliste. On a Camille qui a rejoint l'équipe à l'ouverture en 2024, qui s'occupe de tout ce qui est sciences humaines et énormément nos visuels, la communication, parce que mine de rien, ça reste un travail qui prend du temps. On a Vincent qui nous a rejoint en début d'année et qui s'occupe de tout le rayon bande dessinée, manga, imaginaire et puis qui me seconde sur tout ce que je n'ai pas le temps de faire. J'ai oublié dans notre équipe un élément indispensable qui est effectivement notre administratrice comptable qui surveille les cordons.
Oui.
On était justement ensemble tout à l'heure et pourtant on est vraiment plutôt satisfait de ces deux premières années. Donc pour le moment, on croit en notre chance, on la cultive et on remercie toutes ces bonnes choses qui arrivent avec ce travail qui nous passionne et qu'on fait avec cœur et passion.
Ça prend effectivement une équipe solide, mais je m'en voudrais de ne pas mentionner un élément important. Vous l'appelez la patronne, Rouflette.
Rouflette, sans qui personne ne serait là aujourd'hui, j'aime à le dire. Qui est donc effectivement un basset hand croisé labrador que les gens adorent. Souvent, il y a des journées où les gens ne viennent voir que Rouflette.
Ah, d'accord. Elle vole la vedette, cette Rouflette.
Elle nous vole la vedette. Ouais. Nous n'existons plus. Donc oui, Rouflette, mon chien, qui a 6 ans et qui a toujours travaillé avec moi. Et c'est une vraie chance de pouvoir travailler avec elle et que le centre commercial où nous sommes ne pose pas de difficulté au fait qu'il y ait un chien qui soit en liberté, sans collier, et qui reste à la librairie, ça c'est sûr. Hein, mais je veux dire, voilà, on a le droit d'avoir notre animal, et ça c'est une super chose.
Ben oui, c'est merveilleux. Et c'est marqué sur votre site internet, Rouflette, source de sagesse et d'écoute.
Tout à fait. Mais souvent les yeux fermés.
Ah voilà, d'accord. Ça a été un plaisir de discuter avec vous, Sophie de Turche. Merci beaucoup pour cette entrevue que vous m'avez accordée pour mon émission qui, rappelons-le, a pour but de rendre compte du travail des libraires et des librairies indépendantes, que ce soit au Québec ou ailleurs en Europe. Merci beaucoup.
Un immense merci.
Triste bouquiniste d'avoir le cœur en papier, de ne pas avoir les mots pour la dame au chapeau. voudrais être fleuriste et de mon cœur faire un bouquet et l'offrir sans un mot à la dame au chapeau. Cœur en papier, sans avoir dit un mot à la dame au chapeau, écris les pages nouvelles à offrir sans un mot, que je la trouve belle, la dame au chapeau.
Bonjour, ici David Marchand de la librairie de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Quelle est la partie la plus gratifiante de votre travail et la plus difficile? C'est de trouver le bon livre pour la personne. Quand il y a un déclic, qu'on y remet le livre, elle dit « wow » ou qu'elle te revient, qu'il y a une lecture, elle dit « ce livre-là a changé ma vie ». Pour moi, c'est ça le métier de libraire, c'est d'avoir un impact sur les parcours des gens. C'est des lectures qui changent des vies, puis nous, on est là pour ça. On sait que ça ne sera pas toutes les lectures. On a toutes, il y a des gens qui lisent pour différentes raisons, pour passer le temps, changer les idées. Mais une fois de temps en temps, il y a un livre qui a un impact important sur quelqu'un. Puis je pense qu'il est là la noblesse du métier de libraire. C'est de trouver le bon livre qui va avoir un impact important sur le développement d'une personne, l'orienter dans la bonne direction, l'aider à devenir lui-même ou elle-même.
Coup d'œil sur le métier de libraire en France. On retrouve sur le site du balado Maintenant j'aime les lundis des gens qui parlent de leur métier. Voici un extrait où on peut écouter Anaïs de la librairie Mona à Bordeaux nous parler de son métier de libraire.
Alors Anaïs, on est dans la plus grande librairie indépendante de France, hein, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça.
Est-ce que tu peux me donner les chiffres clés de cette librairie?
Il y a 17 000 km de rayonnage. Nous sommes 120 employés, dont 50 libraires. Il y a 2700 m² de surface de magasins. Nous avons donc 122 ans. Nous avons 180 000 références en magasin.
Ok, on est bon pour les chiffres. Cool. Ensuite, on va faire ta vision du métier.
Est-ce que je vais aimer lire toute ma vie? Oui, il y a la maladie du libraire. Hein. On ne lit pas 15 livres par semaine, chaque semaine. On trouve un slogan. Et faut être une machine à tubes et trouver des slogans hyper drôles, hyper catchy, pour donner envie aux gens d'aller voir. Dans le monde de la librairie, il y a des modes. Et dans le monde de l'édition aussi. Il y a une quinzaine d'années, je dis n'importe quoi, c'était le livre dont vous êtes le héros. Bon, aujourd'hui, maintenant, on n'en entend quasiment plus parler. Ou tout ce qui est Twilight, ce qu'on a appelé la bitlit, ça, c'est un peu terminé aussi.
Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
Découvrons une photographe qui a réalisé dans l'anonymat le plus complet des dizaines de milliers de photographies dont la plupart ne seront découvertes qu'après sa mort, dans un livre intitulé « Chambre noire » signé Dominique Fortier chez Alto. On écoute l'éditrice Catherine Leroux.
Oui, « Chambre noire », le tout dernier roman de Dominique Fortier, où elle s'intéresse, comme elle l'a fait dans ses livres précédents, à une artiste qui a véritablement existé. Cette fois, c'est la photographe franco-américaine Viviane Meyer, qui a un point commun avec Emily Dickinson, à qui Dominique Fortier a consacré deux de ses livres. C'est-à-dire que son œuvre a été découverte seulement qu'après sa mort. De son vivant, Viviane Meyer n'a jamais cherché à diffuser ou à partager ses photographies. Certaines sont même restées à l'état de négatif. Alors, Dominique Fortier relate son enfance entre la France et les États-Unis. Une enfance un peu triste, avec une mère difficile, pour le dire comme ça, à laquelle la jeune Viviane va échapper dans les salles de cinéma où vont se poser les bases de son rapport à l'image. On la voit ensuite découvrir la photographie, tomber en amour avec le fameux appareil Rolleiflex, celui-là, l'appareil qu'on voit sur les images de l'ancien temps. On l'actionne non pas devant le visage, mais au niveau du cœur, ou comme dit Fortier, à hauteur d'enfant. Un appareil qui voit le monde à hauteur d'enfant. D'ailleurs, les enfants, Meyer les a côtoyés toute sa vie dans son métier de nounou. Et c'est d'ailleurs grâce au témoignage des enfants qu'elle a gardé qu'on a pu en apprendre un peu plus sur son tempérament très changeant, assez sévère, austère, mais fantaisiste en même temps. Dominique Fortier va du même coup nous plonger dans l'histoire de la photographie depuis ses débuts, un art qu'elle révèle comme une pratique qui permet de faire apparaître nos doubles cachés et de capter l'invisible par-delà la mort. Et c'est justement ce genre d'absente qu'une autre trame du roman Chambre noire va nous révéler. Il s'agit de la sœur de l'autrice qui est décédée en très bas âge et que Dominique Fortier n'a pu connaître qu'à travers les albums photos de sa famille. C'est un des grands romans de Fortier, un texte fort et vaste qui dégage une impression de robustesse tout en touchant quelque chose de parfaitement évanescent. Chez Alto, on a voulu en faire un bel objet à la hauteur de son contenu. Donc, vous allez trouver des photos couleurs à l'intérieur du livre, des photos de Viviane Meyer et d'autres photos importantes pour l'histoire de cet art.
C'était Catherine Leroux qui présentait le nouveau livre de Dominique Fortier intitulé « Chambre noire ».
Bonjour, Claude Lemay, auteur de Factum, le désamour et Factum, l'abnégation. Je pense que c'est un rôle essentiel pour nous, les auteurs, et j'apprécie principalement les librairies indépendantes. C'est notre canal de distribution, c'est le contact plus humain avec les lecteurs, avec notre lectorat. C'est un lieu aussi de rencontre pour les lecteurs. Ils développent une relation avec leur libraire. Puis ça, c'est précieux parce que c'est la roue qui tourne. C'est ce qui amène le goût de la lecture. C'est ce qui amène, nous, la chance de vendre des livres. Donc, oui, c'est essentiel, mais important. Et je leur en suis vraiment reconnaissant. Oui, par intérêt, parce que j'ai plus de chances que mes livres se vendent. Mais moi-même, un amoureux de la lecture, bien, c'est des lieux de culte pour moi.
J'en ai appris des choses dans les bouquins. J'en ai appris des choses, mine de rien. J'en ai appris des choses en manuel. J'en ai appris des choses et des kyrielles. J'en ai appris des choses et dans les bouquins. J'en ai appris des choses, mine de rien. J'en ai appris des choses en manuel. J'en ai appris des choses et des kyrielles. Va, 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 va.
Bonjour, ici Karine Côte-Noire de la librairie jeunesse Le Repère à Grimbé. Quel livre avons-nous vendu le plus ces derniers mois et pourquoi est-ce qu'il a trouvé son public? Évidemment, il y a de la joie de Michel Ribagliati, qui est un incontournable. Contre toute attente aussi, le livre Remercions de Michel Quecourge, qui est un livre auto-édité, mais qui clairement répond à un besoin. C'était Ça ou mourir de Télucine Aurélien, qui aussi vient répondre vraiment à une demande, quelque chose qu'on a envie de connaître, de savoir. Et c'est sûr que dès que sort un nouveau livre de la courte échelle noire, c'est un événement en librairie. Les jeunes affluent, les enseignants aussi. Cette collection-là réalise quelque chose d'assez incroyable, de faire courir les jeunes en librairie pour une nouveauté. Ça, c'est plaisant à voir. C'est un très beau succès, là.
Dans plusieurs pays du monde, les livres conservent une place si spéciale qu'on a érigé des monuments spectaculaires pour les conserver. Cook and Book, pays Belgique. Dans chacune des 9 sections thématiques de cette vaste librairie-restaurant, on découvre un décor irrésistiblement kitsch, où foisonnent les couleurs, les matériaux et les installations. Du train électrique aux livres collés au plafond, en passant par les disques vinyles suspendus et la caravane qui occupe la section voyage, une surprise n'attend pas l'autre dans cette caverne d'Ali Baba.
Je paie mes factures, ah, la vie est dure et tu n'es pas là. Tu es quelque part où je ne suis pas, ah oui ça c'est sûr. Mais si j'y étais, je crois que je serais pas dans mes chaussures. Ce serait celle d'un autre et je crois pas que ça me botte ce genre d'aventure. Je mets des lunettes noires, je peux pas laisser voir ma déconfiture. Si jamais je te croise, faut que je te toise en ayant l'air dur. Mais c'est des histoires, vu que je suis dans le noir sous les couvertures. Je risque pas de t'y voir, il est bien trop tard, mais j'ai la tête dure. Je passe et repasse toutes nos impasses, nos caricatures. Bien que ça fasse mal, c'est pas l'hôpital qui guérit ses blessures. C'est le temps qui passe, qui soigne et efface toutes les morsures. Les coups de poignard ne seront tôt ou tard que des égratignures. Sur mon cœur, bonheur ou malheur, il n'y a rien qui dure. Mais je n'y crois pas, toi tu restes là, tu es ma nourriture. Tu es mon karma, mon Kama Sutra, ma littérature. Sans toi je suis mort et même si je vis encore, ce sera une imposture.
Gérald Boilly, propriétaire de la librairie à la page à Winnipeg, vous écoutez l'émission de la librairie Cochot.
Appelle-moi Mickey, je t'appellerai Minnie. Catherine ou Philippe, tout ça c'est fini. Tu vois bien qu'on vit dans une bande dessinée où l'on n'est plus maître de sa destinée. Et si pour un instant tu rêves de t'échapper, la grande gomme arrive et tu es effacé. Les grands dessinateurs ont pris la chose en main, quelques coups de crayon pour forger ton destin. Les bons sont désignés et les méchants aussi. Tout ce que tu dois dire dans les bulles c'est écrit. Et si pour un instant tu rêves de t'échapper, les grandes mains arrivent et tu es déchiré. Tu ne fais plus partie de la bande dessinée. Obéis aux lois, à toi les belles voitures, les bateaux, les avions, à toi l'aventure. Comme ces héros-là, sans peur et sans reproche, qu'on relisait la nuit avec une lampe de poche. Fais tout ce qu'on te dit, et si tu es bien sage, tu vivras ton histoire jusqu'à la dernière page. Mais fais bien attention aux choix que tu feras, car y a toujours un traître dans ces livres-là, qui pour quelques dollars ira te dénoncer. Et l'album de ta vie, tu pourras le refermer. Épée de Damoclès, le grand crayon arrive, et de ton existence raille le mot à suivre. Tu ne feras plus partie de la bande dessinée.
pas les vêtements qu'on inventera pour toi, sans te faire remarquer, même si ça ne te plaît pas. Tu aimeras les amis que l'on te choisira, les ennemis bien sûr, tu les détesteras. Le bien c'est ce qu'il faut, le mal c'est ce qu'il faut pas. Ne te pose pas de questions, on décide pour toi, sinon tu sortiras de la bande dessinée. Un coup de pinceau peut fermer ton horizon. On peint quelques barreaux, tu te retrouves en prison. On t'envoie sur la lune et ton vaisseau se perd. Et toi tu perds la boule, enfin tu perds la terre. Et ne crois surtout pas que tu peux t'en tirer. Comme tout bon scénario, ta vie est déposée. Mais si tu es bien vu des grands dessinateurs, si tu sens de leur part une ombre de chaleur, dans le prochain épisode, avec quelques couleurs, ton personnage prendra du poids, de la valeur. Si c'est ça ou la mort, j'ai une autre solution. Écoute-moi bien, c'est de voler le crayon et de recommencer une bande dessinée.
Depuis qu'il est à la retraite, Christian est désœuvré. Sa vie semble arrêtée alors que celle de sa conjointe Carmen, conservatrice de musée, prend un nouvel essor. Lors d'une soirée arrosée chez un couple de leur connaissance, il agresse dans un accès de fureur un fanfaron réactionnaire. Et plutôt que de se livrer aux autorités, il fuit, laissant l'homme pour mort. Christian est alors recueilli par un groupe écologiste désireux d'exploiter son potentiel de violence. On identifie les cibles, les milliardaires coupables du saccage de la planète. Avec ses nouveaux camarades, il sera formé au meurtre. La cause est bonne et il n'a rien de mieux à faire. D'ailleurs, il n'a pas l'intention de survivre à sa mission. C'est ainsi que se résume le nouveau roman de Patrick Nicole, La sélection naturelle, publié chez Le Cartanier. Voici un extrait de mon entrevue avec Patrick Nicole pour la librairie Cochot. Bonjour Patrick.
Bonjour.
13e livre, il est question cette fois d'un professeur qui prend sa retraite, un professeur de cégep qui enseigne la géographie et qui a, disons, un peu mal préparé sa retraite et qui la trouve difficile. En fait, il y a un mot qui revient, une réflexion par rapport à cette nouvelle réalité de ce professeur, c'est l'invisibilité.
Bien, je ne sais pas s'il y a un lien entre l'invisibilité et la retraite, mais mon cher Christian a déménagé, il est dans une nouvelle ville. Et puis, on a parfois cette impression-là, quand on est en voyage, un peu la certitude qu'on va rencontrer personne qu'on connaît, là, alors que tout le monde qui vit à... Moi, je vis à Sherbrooke depuis 60 ans, là, je fais pas trois pas sans rencontrer quelqu'un que je connais. Alors que là, il est dans une nouvelle ville, il se promène, débarrassé de ses attributs du travail, là, puis débarrassé de ses relations sociales parce qu'il est loin. Fait qu'il a un peu le vertige... de l'invisibilité, aussi parce qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de mission, il essaie rien. Puis il se dit, bon, il a quitté son couple, il a quitté son travail, il dit, hey, je pourrais vraiment comme rentrer n'importe où, là. Il y a un petit chapitre un peu euphorique, là, où il rentre dans les hôpitaux, il veut rentrer dans des écoles, il veut rentrer dans le magasin de vêtements pour femmes, tu sais, en disant, personne ne me connaît, et puis j'ai commis un crime, puis je vois des policiers, puis ils ne savent pas. Tu sais, il y a une sorte d'ivresse, mais c'est pas un état qui lui dure très longtemps, disons, là, comme ça.
Et ce qui ressort aussi de la sélection naturelle, c'est que rien ne vaut une retraite qu'une retraite bien préparée.
Bien, le travail, ça nous occupe. Mmh. Et puis, ça nous occupe aussi l'esprit. Et ça nous épargne, je dirais, l'introspection, la connaissance de soi-même, puis toutes sortes de bêtises qu'on trouve quand on est un vieux monsieur un peu grognon, là. Mais une fois le travail terminé, on est un peu, je m'excuse du cliché, là, mais on est un peu face à soi-même, puis on a vraiment beaucoup de temps libre, et ce temps-là, c'est notre responsabilité, c'est à nous de le meubler. J'aime bien le mot meublé, là, parce que c'est comme il faut remplir cette affaire-là qui nous est donnée. Et puis lui, il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas préparé pour ça. Puis même en mauvaise foi, mais quand même, il s'est inscrit à des cours de préparation à la retraite. Puis tout le discours psychologisant, ça ne rentrait pas. Il était hostile à cette affaire-là.
Tout à fait. Bon, deux phrases qui ont retenu mon attention par rapport à ce concept même de la retraite. Penser à la retraite, c'est aussi penser à la mort. Petit rappel sur l'espérance de vie qui s'éternise. Et autre réflexion sur la retraite. Alors, tu veux quoi de ta vie? Je veux être utile. Pourquoi ressent-on absolument ce besoin de se sentir utile?
Bien, je pense que le travail réglait un peu cette préoccupation-là. Il y avait au moins le sentiment d'être utile, ou il l'a été par occasion. Puis, il refuse l'introspection. Il refuse de bien se connaître. Il refuse de renouer avec lui-même, comme lui proposaient les cours de préparation à la retraite. Donc, il pense que ce serait mieux juste de faire quelque chose pour les autres. Au lieu de le faire pour lui, d'apprendre à se connaître, de se retourner vers soi, il veut se tourner vers les autres et se rendre utile. Mm-hmm. Donc, on peut voir ça de deux façons. Ou bien c'est une sorte de paresse intellectuelle, émotive. Il ne veut pas l'introspection, il ne veut pas apprendre à se connaître. Ou juste une urgence où il pense que se tourner vers soi, c'est un peu perdre son temps et surtout gaspiller le temps de la planète qui est un peu comme tic-tac. Là. Le temps s'écoule, puis si je passe mon temps à me regarder le nombril, ben, je vais pas changer le monde. Ça, c'est ça.
Bon, il y a un discours ambiant qui est relaté dans ce roman La sélection naturelle, et ce discours tenu par certaines personnes a le don d'exaspérer le personnage qui est Christian jusqu'à ce que ça déborde. Au lieu de mettre de l'eau dans son vin, il prend une bouteille et assomme un de ses amis et le croyant mort décide de se sauver. Bon, partons de cette prémisse-là. Ce que je comprenais des entrevues que j'ai entendues, que tu as accordées, c'est que tu peux comprendre que certaines personnes en arrivent à un tel geste ou à devenir aussi violent de par le discours qu'on entend. Et ce discours qui est amplifié avec, évidemment, les médias sociaux.
Puis aussi la radio parlée, parce qu'il va dans une ville qui n'est pas nommée, mais qui a un beau patrimoine architectural, puis qui est sur le bord du fleuve. Alors, je vous laisse réfléchir. Et il y a beaucoup de radios qui placotent dans cette ville-là.
Ouais.
Et la personne qui l'exaspère, qui l'amène à sa limite, bien, c'est une personne qui répète le discours ambiant. C'est-à-dire qui répète ce qui a été dit à la radio à propos d'une anecdote de l'actualité qui est un peu triste. Et le mot qu'on a mis, je pense, à l'endos du livre, c'est un fanfaron, mais c'est un bonhomme, là, tu sais, un bonhomme qui t'explique le sens de la vie, puis qui parle un peu fort. Et c'est ça qui exaspère le personnage principal, c'est le degré de certitude, mm-hmm. je dirais, le mm-hmm. degré d'arrogance dans la certitude devant un drame, en fait, d'actualité, là, dont le personnage est assez méprisant, je dirais comme ça, ouais. Une sorte de masculinité triomphante, là, je vais vous expliquer la vie, moi,
ouais. T'sais. Patrick Nicole, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour, ici David Marchand de la librairie de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Y a-t-il une tendance éditoriale qui vous enthousiasse, au contraire, qui vous inquiète? Bien, la réponse, je pense, de facto qui s'impose, c'est évidemment l'impact de l'intelligence artificielle sur l'édition. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un point tournant vraiment dans le monde de l'édition. Puis il y a toujours eu, dans l'édition, que ce soit québécoise ou à l'étranger, des lignes d'édition, des lignes éditoriales qui sont très grand public, axées sur la quantité et non pas sur la qualité. Puis ça a déjà existé bien avant l'apparition de l'intelligence artificielle. Mais peut-être que là, c'est facilité. T'sais. Peut-être que là, à ce moment-là, il y a vraiment un danger. Puis il y a le regroupement pour l'art humain, le RAH, si je ne me trompe pas, qui a fait une manifestation à Montréal au Salon du livre. Puis c'est de plus en plus écouté de dire bien, il faudrait que le gouvernement mène des normes puis des balises sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans le monde de l'édition puis comment pas tasser les artistes, en fait, ne pas leur voler leur place. Fait que ça, c'est évidemment inquiétant. Puis je pense que c'est important qu'il y ait une discussion sociale importante puis qu'il y a des choses, il y a des actions qui sont mises en place de ce côté-là.
Dans plusieurs pays du monde, les livres conservent une place si spéciale qu'on a érigé des monuments spectaculaires pour les conserver. Selon le livre Guinness des records, la Barnes & Noble de New York est la plus grande en termes de surface au sol, avec 154 250 pieds carrés. Enfin, le Book Garden à Téhéran a été inauguré récemment et est la plus grande librairie jamais construite, avec une superficie de 75 000 mètres carrés. Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de bande dessinée. David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches.
David Lessard-Gagnon, bien le bonjour.
Salut René.
David, tu nous présentes cette semaine une bande dessinée chez Sarbacane. C'est un éditeur que j'apprécie particulièrement. Ce que j'ai vu jusqu'à présent, ce que tu nous as présenté, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai jeté un coup d'œil sur la BD dont tu vas nous parler cette semaine. Et c'est exactement dans ce que j'apprécie de cette maison d'édition Sarbacane. Elle a pour titre cette bande dessinée Carl. Et c'est signé Cyril Bonin. Et là, on va parler d'un robot qui a peut-être des émotions. Mm-hmm. C'est philosophique aussi.
Oui, très belle bande dessinée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, j'abonde dans ton sens par rapport à la qualité éditoriale de ce qui se passe en bande dessinée chez Sarbacane.
Oui.
Souvent des propositions très intéressantes qui ont de l'ambition d'un point de vue graphique.
Oui.
Puis de l'ambition d'un point de vue narratif.
Aussi.
Puis cette bande dessinée-là ne fait pas exception. Donc, Carl nous raconte un richissime industriel solitaire qui vivait donc seul avec son robot domestique, Carl. Et en fait, au tout début de l'histoire, ce qui se passe, c'est le décès, en fait, de cet industriel-là dans un accident de voiture sur une route. La route qui mène à son grand manoir en montagne. Il s'avère que c'était Carl, le robot domestique, qui était au volant lors de l'accident. Et donc, la fille de l'industriel en question, elle qui n'a pas vu son père depuis plusieurs années pour cause de différends sur perspective de la vie. Fais ce que tu veux, moi je vais faire ce que je veux, mais on ne se parle plus vraiment.
OK.
Va donc revenir car elle est la seule héritière. Elle est appelée par les actionnaires de la compagnie de son père qui, eux, ont l'intention d'actionner la compagnie fabricante de ce robot car il semble avoir été défectueux, pas supposé faire d'accident, surtout pas sur une route qu'il connaît par cœur. Il y a donc plusieurs éléments. Toute cette situation-là nous permet de faire des trucs qui sont un peu intimes avec cette jeune femme, sa relation avec son père, le deuil qu'elle peut avoir de quelqu'un qu'elle considérait maintenant un peu comme un inconnu, de se retrouver aussi dans cette maison qu'il l'a vu grandir, mais qui lui est étrangère dans une certaine mesure. Et donc aussi, surtout avec la présence de ce robot-là, avec qui elle ne veut pas avoir grand-chose à faire. Là. Pour elle, c'est effectivement vraiment simplement un objet.
Mm-hmm.
Puis, dans le début de cette histoire, elle lui dit souvent « Va te mettre en veille à quelque part, puis laisse-moi tranquille. » Mais lui sort de sa veille, manifestement, de manière un peu autonome et un peu volontaire, parce que des fois, elle jardine, puis là, il arrive, puis lui offre de l'aide. Est-ce que je peux vous aider à jardiner? Là, elle est un peu troublée du fait qu'il est sorti de sa veille tout seul, mais lui dit, qu'est-ce que t'en as à faire, toi, de jardiner? Tu sais,
ouais.
Je vais juste vous offrir de l'aide. Mais qui est sur un fil, on a vraiment subtilement toutes sortes de signes d'une certaine sensibilité de sa part.
Ouais.
Il y a aussi toute une partie de procès. Donc, cette partie de procès-là, on va la voir. Elle est intéressante d'un point de vue philosophico-juridique, effectivement. Tous les principes de responsabilité par rapport à la fabrication d'un automate. Mm-hmm. Mais c'est super intéressant parce que les raisons concrètes, pragmatiques qui ont mené à cet accident-là sont effectivement de nature à nous dire que ce robot-là n'est pas un simple robot. Donc, il est défectueux. S'il n'est pas un simple robot, il ne fonctionne pas comme il est supposé fonctionner. Mm-hmm. Fait que tout cet aspect-là qui est super intéressant. Puis lui-même, Carl aussi, qui ne nie absolument pas le geste, l'accident, ses conséquences non plus, qui est même prêt à assumer responsabilité. Fait que là, on est aussi dans un rapport super intéressant où le robot, il dit « Mais bien sûr, j'ai failli à ma tâche, je devrais aller en prison. » Puis en même temps, on sent bien, pour lui, passer 80 ans en prison, c'est rien, c'est un robot. Donc, très, très belle bande dessinée graphiquement aussi. Les paysages sont très... On est en montagne, les paysages sont très inspirants, inspirent le calme d'une certaine manière, ils sont vraiment idylliques. On est vraiment souvent en présence d'une nature foisonnante, très généreuse, très bucolique. Puis c'est peut-être pas étranger non plus à comment ce robot-là développe une sensibilité parce qu'il est entouré de beau. Il regarde beaucoup les animaux, tout ça. Puis la relation aussi entre l'héritière et le robot est intéressante dans la mesure où elle voit bien là, qu'il y en a une sensibilité, puis que cette sensibilité-là même a quelque chose de touchant, puis mm-hmm. quelque chose de sincère. Ben, c'est pas qu'il y a une histoire d'amour, parce que c'est pas là que ça va, mais il y a clairement une relation qui se tisse entre les deux, puis ça, c'est super intéressant à voir aller, parce qu'elle se déroule sur un long temps aussi, parce que le robot, lui, il va survivre, là.
il va survivre.
Puis elle vieillit. Donc, très belle bande dessinée, belle couleur, belle rythmique, avec, c'est ça, des enjeux à la fois... pour notre réflexion philosophique, un beau fil relationnel dans l'intime, les notions de deuil, les notions d'étrangeté, les notions de vouloir se rapprocher de quelque chose qu'on ne connaît pas, de l'inconnu. Plein de belles choses, subtiles, bien faites, voilà.
Et on s'attache à ce robot?
Oui, oui, oui. Il sait nous toucher, je pense. Puis, en fait, c'est un personnage très, très, très réussi, touchant dans son élan mm-hmm. vers une esthétique. Parce que qu'est-ce qu'une sensibilité? À quel point on peut être indifférent à une autre forme de vie qui est sensible, qui se met à regarder un arbre puis à trouver ça beau?
Oui, 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 oui.
On aime beaucoup nos animaux là, domestiques, tu sais, les chats, les chiens, mmh, mais mmh. on ne les voit jamais admirer là, tu sais, quelque chose. Ou en tout cas, peut-être qu'on peut leur prêter ça par anthropomorphisme, mais de rencontrer une autre forme de vie qui partage une aspiration au beau, juste le beau pur avec un grand B. Je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à ça. Donc oui, il est très réussi comme personnage. Il est convaincant dans son désir de vouloir être dans le monde puis de croquer le monde. Oui, très intéressant.
Ben voilà, alors cette bande dessinée publiée aux éditions Sarbacane, elle a pour titre Carl, c'est de Cyril Bonin. Merci beaucoup, David Lessard-Gagnon.
Ça m'a fait plaisir.
Découvrons la librairie de livres d'occasion Les Recyclables à Genève, en Suisse. Dans un document d'archives produit par la Radio-Télévision Suisse en 1994, disponible dans les médias sociaux.
Fouiner, chiner, farfouiller pour trouver le bouquin de ses rêves dans des amoncellements de livres poussiéreux, eh bien cette course aux livres rares et cette quête un peu salissante s'est terminée ou presque. Crise économique oblige, le marché du livre d'occasion se donne un nouveau look. Aujourd'hui, les libraires de bouquins de seconde main ne se contentent plus d'empiler les arrivages dans les caisses, ils les répertorient, les classent et même en tirent des listes informatiques, tout comme dans une librairie de nouveautés. Mais pourquoi tellement soigner les ouvrages de seconde main?
L'idée de créer cette librairie m'est venue parce que je me sentais envie d'être un client d'une librairie comme celle-là. Alors plutôt que rêver et être un maire, je me dis, bah, faisons-la.
Le livre vit donc une seconde vie et le système profite aussi bien aux libraires qu'aux clients. Les livres s'échangent ou se revendent et peuvent tourner ainsi entre plusieurs mains et être lus par beaucoup plus de monde. Le système est simple et coûte bon marché. Un client achète quelques livres, il les lit et s'il ne veut pas les garder, il les échange contre d'autres ou les revend. Un critère pour le libraire de seconde main, la qualité. C'est la condition sine qua non pour que l'entreprise marche bien. Les lecteurs fouineurs sont restés très exigeants.
D'abord, quand les gens viennent et qu'ils découvrent qu'ils peuvent acheter 5 livres pour le prix d'un seul, évidemment qu'ils sont plutôt enthousiastes. Mais ensuite, ils nous disent si ça ne leur plaît pas ou si c'est des romans qu'ils lisent, est-ce que je pourrais vous les revendre? Mais bien sûr, vous pouvez nous les revendre. Si on les achète une fois, il n'y a pas de raison qu'on ne les rachète pas une deuxième. C'est parce qu'on considère qu'ils ont un intérêt.
À Genève, depuis quelques temps, plusieurs librairies de ce type ont ouvert leurs portes. Certaines se sont spécialisées dans des domaines bien particuliers, si bien qu'il est devenu presque facile de trouver les bouquins convoités.
Bonjour, ici Isabelle Dion de la librairie Anne-Norac. S'il y a un livre, en fait, que j'aime et qui est resté justement méconnu, donc un espèce de coup de cœur oublié, ça, c'est vraiment génial comme question à poser à un ou à une libraire, quoique c'est très difficile. C'est comme se faire demander est-ce qu'on a un film préféré, ce qui doit pas être posé comme question. Mais dans tous les cas, évidemment, qu'il y a certains livres que j'ai beaucoup aimés qui, selon moi, sont passés inaperçus ou qui ont peut-être pas perdurer dans le temps en termes de popularité, je dirais tout ce qui est littérature de fond, parce que on sait que dans les librairies, souvent, la nouveauté, c'est un peu l'attrait. On le voit bien, par exemple, dans des journées festives comme le 12 août, mais ce qui est vraiment le fun pour un ou une libraire, c'est d'aller vraiment piger dans ce qui est considéré comme le fond, c'est-à-dire des classiques qui ont connu une popularité ou pas au moment de leur sortie, ce qui m'emmène finalement à me dire qu'un coup de cœur oublié serait peut-être par exemple, Mykonos de Olga Duhamel Noyer chez Heliotrope. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je conseille beaucoup. Il va toujours mériter des éloges, peu importe le moment où on va le conseiller en librairie. Donc, voilà.
sur la librairie comme un lieu magique. Sylvain Tesson résume l'atmosphère unique de ces lieux en une seule phrase. Une librairie, c'est le dernier endroit des grandes villes où les gens marchent lentement et parlent à voix basse.
Eh bien, voilà que se termine cet épisode de votre émission littéraire La Librairie Cochot. Je m'appelle René Cochot et j'ai la grande joie d'animer cette émission qui vise à mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chapitre de La Librairie Cochot.
J'ai grandi pas loin d'ici, dans le troisième arrondissement, où les rêves se font endormis une fois debout. On n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain, et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais il y avait Monsieur Desilets, un prof fin et disponible, qui m'avait pris sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer, je coulerais le test du ministère. Lundi, j'enverrai mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Desilets m'a tendu un crayon banal roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit: ce crayon-là, il est magique, prends-le demain pour l'examen. Et c'est les réponses et les répliques. Je suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof inspirait confiance. Je voulais croire un peu aussi que j'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de madrie, non. Le crayon était vivant, et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul. Sans blague, ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. Ah, j'aurais dû rendre le crayon, j'étais quand même pas un voleur. Mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur, j'ai mis le stylo dans ma poche, puis je suis parti en courant. La conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenu l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais, mais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien accompli. Le crayon vainquait les pages blanches, moi, je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien. Que je roulais dans une Camaro sur laquelle mon père s'usait les mains. En plus, j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon ou que me dénonce mon professeur. Le sang serait vraiment fini pour de bon. Ils m'ont retrouvé hier soir à une séance de dédicace. Tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit: Monsieur Desilets, vous venez chercher votre crayon. Il m'a souri tristement en disant: t'as toujours pas compris. Et dans ta tête, ton grand talent, le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fier de toi, y a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins trois fois. Moi je me suis levé d'un coup, j'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou, la vérité me donnait des ailes. Tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. La lumière brillait sur les toits et les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, non. J'ai écrit sans m'arrêter. le nombre de feuilles que j'ai noircies. Je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire de la magie. Car dans le troisième arrondissement, les rêves volent pas très haut. On les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie crier jusque dans le cours d'école, on comprend vite dès qu'on est petit qu'il y a juste les oiseaux qui s'envolent.